Vous entrez dans les ateliers de la nuit. On peut recevoir un appel qui vient de loin, un appel irrépressible pour partir ailleurs. Cette injonction est apparue à Elvira Karimova Fortunato un jour dans la cour de l'église du Saint-Esprit à Paris. L'appel vient de l'Est et du XIIe siècle. C'est un désir fou, soudain, de quitter Paris pour Moscou, avec l'intuition que quelque chose l'y attend, avec la sensation que quelque chose existe encore là-bas qui a disparu ici, qu'il y a des traces d'une histoire dont nous avons perdu la mémoire. Au risque de se sentir perdue, de se sentir étrangère, pas à sa place ou trop à l'étroit dans des appartements suroccupés, Elvira partira à Moscou, à la recherche du son de la ville et d'un son qui sort de terre, qui surgit du passé. Elle téléphone à Ekaterina Alexeïevna, professeure de chants Znameni à l'École supérieure de musique de Moscou. Les cours de chants Znameni sont ouverts à tous et gratuits. Il existe encore des milliers et des milliers de manuscrits, certains datent du XIIe siècle, pour cette tradition vocale de l'Église orthodoxe russe. Ce ne sont pas des notes, mais des signes spéciaux qui ressemblent à des crochets, noirs avec des marques rouges. Elvira entre alors dans une nouvelle écriture, avec de nouveaux codes et une nouvelle voix, imprégnée de tous les sons contemporains de la ville. Ce sont donc des impressions sonores de Moscou, émotionnelles, où celle qui voyage prend son corps comme un instrument de musique, pour recevoir, et avec détermination, rendre une partition à la hauteur du voyage. C'est donc un geste hors temps, hors sol, indispensable, puisqu'uniquement guidé par le désir. C'est le carnet de voyage musical d'Elvira Karimova Fortunato, à Moscou, de Moscou.
Moscou, de Moscou, le carnet de voyage musical. Творческая жизнь не может быть одним послушанием, подчинением авторитету. Творческая жизнь всегда предполагает свободу духа. Она есть обнаружение этой свободы. В творчестве есть не только смирение, которое есть неизбежный момент духовного пути, но и дерзновение свободы. Николай Бердяев. La vie d'un artiste ne peut pas être seulement docilité, obéissance à une sommité. La vie d'un artiste suppose toujours la liberté de l'esprit. Elle est même la révélation de cette liberté. Dans la création, il n'y a pas que l'humilité qui soit un moment inévitable du chemin spirituel, mais aussi l'audace de la liberté. Nikolai Berdiaïev.
À Moscou, à Moscou.
À Moscou, à Moscou.
Il faut que vous alliez à Moscou, c'est là que ça se passe.
D'un seul souffle, le père Georgi prononça son verdict. Il faisait doux, presque chaud, et on était assis dans la cour de l'église du Saint-Esprit, à Paris. Les châtaigniers étaient en fleurs. Je me souviens très bien de la douceur de la brise de cette journée printanière. le parfum du mois d'avril bien parisien, la pureté de la verdure pas encore poussiéreuse et les voix douces des paroissiens.
À Moscou, ils sont en train de faire renaître ce que le professeur Razumovski a commencé à faire au 19e. Il y a encore des milliers et des milliers de manuscrits, certains datent du 12e siècle. Un vrai trésor à découvrir.
Ma réaction a été instantanée. À Moscou, à Moscou.
Si vous n'y allez pas, vous regretterez toute votre vie.
Le père Georgi rajouta de l'huile sur le feu de mon désir. Quelques semaines plus tard, j'ai téléphoné à Ekaterina Alexeyevna, le professeur de chant Znamenny au département d'études de la musique russe ancienne auprès de l'École supérieure de musique de Moscou. De francs éclats de rire, durant 30 longues secondes, ont été sa première réaction.
Je vous prie de m'excuser, mais tout le monde part à l'ouest et vous, vous voulez venir ici. Et en plus, c'est pour étudier le chant ancien Znamenny. Les cours facultatifs de chant Znamenny. Oui, ils sont ouverts à tout le monde. L'enseignement est gratuit.
Долго, долго, долго пляшет огонек. Только, только, только между двух дорог. Глаз твоих прекрасных, звонкие лучи светят ясно-ясно ветреной ночи.
Mes premières émotions, impressions moscovites. Quelques mois après cette conversation téléphonique, ma copine Anna et son époux Petya m'attendaient à l'aéroport de Sheremetyevo à Moscou.
On revient de la Dacia. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchons.
Dit Anna en tournant la clé de contact. Si autrefois, on parlait des routes, ou plus exactement de leur état, comme d'un trait russe caractéristique, chez Nikolai Gogol par exemple, de nos jours, on parle des voitures, ou plus exactement de leur quantité. À Moscou, il y en a beaucoup, beaucoup trop même. À l'époque soviétique, avoir une voiture était un vrai luxe. Aujourd'hui, la voiture est devenue un véritable moyen de transport. Et de prestige, bien sûr. Dans la capitale russe, comme dans un très beau musée d'automobiles, circulent des voitures de tous les temps et de tous les pays.
Ah non, mais pourquoi tu prends le sens interdit? Tu sais très bien que c'est dangereux.
La voix de Petya était nerveuse. Gentil de nature, il contredisait rarement sa femme. Mais quand cela arrivait, il était ferme.
« On y serait resté encore 3 heures, tu sais. »
Anna riait, sans prendre mal les propos de son époux. Trois générations de moscovites vivaient dans un appartement de 3 pièces. De plus, l'une des pièces avait été transformée en salle à manger. Une chambre supplémentaire était collée à l'appartement principal sur le même palier. Sur ces très chers mètres carrés moscovites, le prix de l'immobilier dans la capitale russe est loin d'être justifié, vivaient Nadezhda Alexandrovna avec son époux, leur fils Petya avec Anna, ma copine, et leurs 2 enfants, Boris et Daria. C'est sur son lit que j'ai dormi pendant les 2 semaines que j'ai passées chez eux. Et Daria a été obligée d'aller dans la chambre de ses grands-parents. Merci, Daria.
«
membres de la grande famille participaient à l'œuvre chaotique qui régnait dans l'appartement. Anna travaillait dans l'une des nombreuses sociétés pharmaceutiques de Moscou, se déplaçait beaucoup en Russie et à l'étranger. Nadiejda Alexandrovna s'occupait des enfants. Allait chercher Boris à l'école, la petite Daria à la maternelle, les amenait aux cours de musique, de dessin. Fière de ses origines bien moscovites, ce qui était de plus en plus rare à Moscou, Nadiejda Alexandrovna s'exclamait souvent.
Ils arrivent, mais Moscou n'est pas fait de caoutchouc. La ville ne peut pas s'étirer sans fin.
Peu importe l'heure, le métro moscovite est toujours rempli d'une marée humaine interminable au visage très différent. Les larges avenues de la capitale russe sont également émaillées de cette diversité multinationale. Dans l'immensité de Moscou, comme dans la vaste étendue de l'URSS, vivent des représentants des 15 républiques d'antan. Et pas seulement. La plupart du temps, les Ouzbeks et les Tadjiks, en provenance d'Asie centrale, gagnent leur vie en nettoyant les rues de la capitale russe. Je ne suis pas sûre qu'il existe aujourd'hui une seule rue moscovite nettoyée par un natif de Moscou. Лица кавказской национальности, ou les personnes d'origine caucasienne, c'est comme ça qu'on les appelle à Moscou, principalement les Azerbaïdjanais, vendent des fruits et des légumes sur les marchés moscovites. Les Géorgiens tiennent souvent des restaurants. Les Arméniens réussissent dans le commerce. Les Biélorusses et les Ukrainiens travaillent souvent dans les nombreux chantiers de Moscou. Les femmes de ménage, les nounous et les gouvernantes viennent essentiellement de Moldavie. Les Chinois et les Vietnamiens, la plupart du temps, travaillent dans de petits ateliers de couture. On peut les voir aussi dans de nombreux marchés d'habillement, en train de vendre les vêtements qu'ils fabriquaient. Je me souviens, un jour, j'étais invitée à l'anniversaire d'une amie. La vodka coulait à flot et la table était pleine de spécialités locales incontournables, telles que des harengs ou des cornichons mal au sol. Comme souvent lors de pareilles réunions, avec beaucoup de passion, les Russes discutaient des sujets auxquels ils n'étaient pas indifférents.
Mais tu ne comprends pas. Nous vivons dans un état russe quand même. Mais alors regarde-moi les rues de Moscou.
Comme les flammes jaillissant de la gorge d'un dragon, sortaient les mots de la bouche d'une amie moscovite.
Et dans les hôpitaux, regarde-moi dans les hôpitaux, que des Azerbaïdjanais et toute l'Asie centrale qui font la queue.
Elle continuait son monologue enflammé, et moi, je gardais mes pensées en silence. Il y a déjà très longtemps qu'Ivan le Terrible a pris Kazan et Astrakhan et que Yermak a conquis la Sibérie. Les campagnes militaires du prince Potemkin vers la mer Noire sont du domaine du passé lointain. Les débats coloniaux entre l'Empire russe et la Grande-Bretagne en Asie centrale sont également tombés dans l'oubli. Bien avant la révolution d'octobre en 1917, et longtemps avant la création de l'URSS en 1922, la Russie était un pays multinational. Les gens dans les rues de Moscou sont méfiants quand je leur demande un renseignement, direction ou autre. Je partageais mes émotions avec une autre amie moscovite.
Vous avez des traits asiatiques, même s'ils ne sont pas très prononcés. En même temps, vous êtes habillée joliment et avec goût. Pour des moscovites qui sont fatigués des étrangers, c'est un peu bizarre. C'est pour cela qu'ils sont méfiants.
Ce qui est exotisme et originalité à Paris n'était pas toujours coté à Moscou. Une fois de plus, je gardais mes réflexions pour moi. Le problème du logement est les trains de banlieue. Les jours où j'en avais marre du lit de Daria, dans la chambre d'enfant, qu'il me cédait très généreusement, du canapé-lit dans la cuisine et de l'œuvre chaotique du collectivisme familial, je prenais un train de banlieue pour aller chez ma cousine Olga à Novogorodsk. Le petit appartement d'une pièce où vivait Olga avec son mari était à l'opposé de l'appartement de mes amis moscovites. L'ordre et la clarté y régnaient, et le rythme des repas était respecté avec une exactitude quasi mathématique. Une vie au rite très particulier régnait dans les trains de banlieue. On pouvait y acheter de la glace et du kvass, qui est une boisson fermentée russe, du sel et du poivre, des affiloirs de grande qualité pour les couteaux, des fils de toutes sortes, des journaux et des magazines, des livres, des jeux de cartes. On pouvait même y rencontrer une bande de tziganes, essentiellement constituée de femmes et d'enfants, choisissant leur proie pour leur tirer les cartes et prédire une vie belle ou pas. C'était souvent une question de prix. Le plus exotique pour moi, c'était le voyage de Moscou à Novogorodsk à l'heure où les gens rentraient dans leur foyer en banlieue moscovite. Misha, l'époux de ma cousine, travaillait à Moscou. Tous les jours, 1h30 pour l'aller et 1h30 pour le retour, dans les trains. Aux alentours de 18h, Misha et moi, on se rencontrait à la gare moscovite de Koursk pour prendre d'assaut le train de 18h40. Pratiquement tous les wagons étaient à moitié vides. Or, aucun siège libre. À la place des gens, qui arrivaient plus tard, on trouvait des journaux, des magazines ou tout simplement une carte à jouer. En langage local, cela signifiait que ces places avaient été réservées. Et cette loi secrète était respectée par tout le monde, sans faute. Le voyage matinal de Novogorodsk à Moscou pourrait également paraître curieux à un passager inexpérimenté. Tout à coup, comme après le vent, la plupart des voyageurs disparaissaient. Les gens couraient pour changer de voiture en passant par les quais si le train était à l'arrêt. Un raid de contrôleurs avançait. Pourtant, quelques passagers restaient et payaient une amende ou un ticket avec majoration qui, curieusement, était moins cher que le ticket acheté au guichet. 1h30 pour l'aller, 1h30 pour le retour, 132 roubles pour l'aller, 132 roubles pour le retour, je n'ai eu marre de la vie de banlieue. intérieurement, j'ai commencé à bouillonner, tout en comprenant qu'il me fallait trouver une solution, d'urgence. Éternellement vert, des sapins tristes regardaient les vitres embuées du train qui m'amenait à Moscou. Entrée et sortait, montée et descendait des passagers. Désespérément, j'appelais des agents immobiliers.
Déjà loué. Et quel est votre budget?
Mais voyons, madame, des prix pareils n'existent plus à Moscou.
Ma sœur appelait d'Allemagne. Une fois de plus, elle posait la même question.
As-tu appelé la tante Katia? Tu n'as pas son numéro? T'as de quoi noter? +7 495.
La tante Katia est la cousine au troisième degré de maman. Cela faisait déjà longtemps qu'ils vivaient à Moscou. Nous étions allés en visite chez eux durant l'été 85. Sans trop attendre, j'ai appelé la tante Katia. En arrivant à Moscou, je suis allée directement chez elle. Après avoir mangé du borsch, nous sommes allés visiter l'appartement d'Oksana, la fille de son deuxième époux. Je suis entrée dans l'appartement sur Polejaïevska, comme si je rentrais chez moi. Après avoir défait mes valises et après avoir mis de l'ordre dans l'appartement, fatiguée mais heureuse, je me suis endormie. Il faisait presque jour. Les harmonies du chant Znamenny. Les cours de chant Znamenny avaient lieu une fois par semaine. Nous étions 3 débutants. Dans le groupe avancé, il n'y avait que 4 ou 5 personnes qui venaient et revenaient de façon irrégulière. Les étudiants de l'école supérieure de musique ne s'intéressaient pas aux chants anciens.
Есть живете зело земля и же како люди мыслите наш он покой.
Les крюк ou les знамя sont à la base de ce chant pneumatique. Ces signes peuvent désigner une ou plusieurs notes à la fois. Стрела простая, параклит, голубчик sont là surtout pour marquer la durée des notes, mais pas seulement. Les anciennes méthodes de chant enseignaient que les знамя avait également une connotation spirituelle. En étudiant Strela Prastaya, par exemple, les anciens parlaient de l'accomplissement de toute bonne action qui soit en accord avec Dieu. Quant à la hauteur du son, On peut la connaître grâce aux marques de couleur rouge qu'on mettait à gauche des знамя. Киноварные, степенные, пометы. Гораздо низко, средне, высоко. Ces noms avaient également une sonorité très ancienne pour une oreille moderne. Et le summum pour ceux qui pratiquaient ce chant ancien était de pouvoir déchiffrer les fitas, ces signes ésotériques qui attiraient tant de gens à la recherche de trésors, spirituels ou matériels. Certains fitas pouvaient contenir jusqu'à 30 sons et plus. La rigueur de la mélodie, la pureté spirituelle, la palette très riche des couleurs, la lumière douce, quelque chose de très lointain et à la fois très proche, tout cela, je l'entendais dans ce chant ancien, à l'unisson. En 988, sous le règne du prince Vladimir, la Russie devint orthodoxe. Cet événement historique, sans aucun doute, détermina l'évolution de la Russie pour les millénaires suivants. La légende raconte que les ambassadeurs du prince Vladimir furent éblouis par la beauté et l'harmonie de la liturgie à la basilique Sainte-Sophie à Constantinople. Avec la manière byzantine de peindre les icônes, l'Église russe adopta également la manière grecque de chanter à l'Église. Quoique les scientifiques, ceux qui savent bien décomposer la musique, cette substance pourtant divine, débattent encore aujourd'hui de la question « Qu'est-ce qui est à la base du chant Znamenny ?» Les 8 mélodies thèmes ou glaces gréco-slavones, des chants russes traditionnels, les deux à la fois, quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas et qui a été perdu au cours des siècles. Знаменный, comme d'ailleurs la peinture d'icônes, a connu son âge d'or au 14e, 15e siècle. À cette belle époque, Féophane Grec et Andrei Rublev créaient leurs icônes. Et les chœurs chantaient des mélodies très riches de Stolpovoy, Balshoy Znamenny. Or, au moment où l'Église orthodoxe russe a connu le Raskol, schisme religieux en Russie au XVIIe siècle, où le chant à l'unisson a été remplacé par la polyphonie occidentale, le chant знаменный s'est maintenu chez les vieux croyants, ou староверы, ceux qui ont gardé les traditions de l'Église orthodoxe russe avant les réformes du XVIIe siècle. En Pomerie du Nord, dans l'Altaï en Sibérie, là où les persécutions du pouvoir central ne pouvaient pas les atteindre. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est bien la polyphonie qui règne dans les églises de la ville aux coupoles dorées. Quoi qu'il y ait encore à Moscou, des enthousiastes du chant знаменный qui, avec ou sans passion, défendent leur point de vue scientifique ou traditionnel. La vie de l'homme et l'histoire du monde avancent implacablement. Le temps, même s'il ralentit le pas, ne s'arrête jamais, même pas pour un instant. En direction de l'éternité, éternellement. Recherche du son à Moscou. Cela faisait 2 mois que j'étudiais le chant знаменный à l'École supérieure de musique. L'argent filé et mes tentatives pour trouver un travail n'aboutissaient à rien. Les sociétés russes préféraient embaucher leurs concitoyens. Les démarches administratives pour obtenir un visa de travail étaient tellement longues, compliquées et coûteuses que les sociétés étrangères, elles aussi, préféraient employer des Russes. La compagnie italienne, avec laquelle j'avais collaboré à Londres et qui m'avait proposé de travailler dans leur showroom à Moscou, changea d'avis. De plus en plus souvent, je me réveillais pendant la nuit, toujours la même question, en tête et au cœur. Qu'est-ce que je fais ici et en quoi ai-je besoin de tout cela ? Je ne savais qu'une seule chose. Le désir d'écrire, d'aimer, de travailler le son venait d'une nécessité intérieure. Depuis le canapé-lit, dans le silence nocturne d'un petit appartement moscovite, s'élevait une ardente prière. Aie pitié, aide-moi.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний. Случайный последний троллейбус по улице мчи, и верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение.
Début novembre, j'ai fait la connaissance de Svetlana Grigorievna, professeure de chant. Ce qu'elle disait éveillait chez moi un écho, comme si je reconnaissais ce qui était déjà gravé au cœur de ma mémoire, depuis la naissance. L'âme et le corps à la recherche du son, comme à la recherche de la lumière. Malgré mon désespoir presque enfantin, quand je n'y arrivais pas, tout s'effaçait dans les moments, même s'ils étaient rares au début, d'illumination physico-spirituelle. Quand le son fait partie de l'univers, quand le son naît auprès de la source divine, quand le son ne t'appartient plus.
Как много представьте себе доброты в молчании, как много представьте себе доброты.
Il commençait à pleuvoir. Après la leçon avec Svetlana Grigorievna, je sortais de sa maison qui se trouvait dans l'un des quartiers éloignés de Moscou. Ici et là, brillait l'or des rayons du soleil. La moitié du bleu céleste s'ornait d'un magnifique arc-en-ciel. Et les colombes blanches s'envolaient vers ces couleurs riches et profondes.
И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает.
L'espoir d'origine française. Une lueur d'espoir est venue de France. Le Centre culturel français de Moscou m'a proposé d'enseigner le français. J'étais ravie. Mes élèves étaient jeunes, dynamiques et pleins d'enthousiasme. J'adorais travailler avec eux. La plupart d'entre eux étudiaient le français pour partir d'ici, comme ils disaient eux-mêmes. Mais il y en avait également quelques-uns qui cherchaient à faire quelque chose d'utile en Russie et pour la Russie, quoiqu'ils n'étaient pas très nombreux. Un jour, après la leçon au Centre culturel français, avec un vol d'Air France du dimanche soir, je partis pour Paris, afin de résoudre la question du visa, dans l'espoir de revenir le vendredi suivant pour le cours du samedi. La file d'attente devant l'ambassade de Russie à Paris. Le doyen de l'école supérieure de musique avec la lampe du chant Znamenny sous la couverture. Après avoir fait la queue interminablement longue dans lundi matin, un jour de novembre terriblement froid pour la capitale française, je sortis de l'ambassade de Russie après y avoir pris une douche froide. Quelques minutes plus tôt, une jeune collaboratrice du consulat, le sourire aux lèvres, avait prononcé le verdict.
La loi de la Fédération de Russie stipule que, pour l'obtention d'un visa de longue durée, il faut avoir une invitation avec un permis de travail en provenance d'une entreprise russe, ou bien une invitation officielle de la part d'un établissement russe d'enseignement.
La procédure est tellement longue et compliquée qu'on ne la fait pour personne. Nos professeurs se débrouillent pour avoir leur visa.
Me disait quelques jours plus tard le directeur des cours de français au téléphone.
Vous pouvez toujours enseigner le français chez nous, mais on ne pourra pas vous aider pour le visa. Désolé.
Dans l'espoir d'une aide, au moins morale, je téléphonais à Ekaterina Alexeyevna, le professeur de chant Znamenny à l'école supérieure de musique.
Notre doyen n'aime pas du tout que vous écriviez des lettres au rectorat de l'école. Imaginez si quelqu'un en provenance de Russie, par exemple moi, sans aucune formation académique, était venu dans un établissement de musique en Italie et avait demandé à étudier la musique du Moyen-Âge.
C'est bizarre. À plusieurs reprises, vous nous avez dit qu'une formation musicale trop académique empêche l'assimilation de ce chant ancien basé sur la tradition vivante. Vous évitiez même des termes théoriques, il me semble. J'essayais tout de même d'opérer ces arguments. Tout récemment, vous nous disiez que les cours de chant Znamenny étaient ouverts à tout le monde et que l'enseignement était gratuit. Ces jours-ci, il me venait à l'esprit la parole de l'Évangile. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette, mais on la met sur support pour que ceux qui entrent voient la clarté. Dans un dessin animé, j'imaginais le doyen de l'école supérieure de musique sous une couverture, solennellement et religieusement, les mains tremblantes, il tenait la lampe du chant Znamenny. Écrasé par cette situation absurde, ayant emprunté de l'argent auprès de parents retraités, je pris l'avion en direction de Moscou pour récupérer les affaires laissées dans l'appartement d'Oksana. Pendant les quelques jours que j'ai passés à Moscou, j'ai réussi à prendre deux leçons de chant avec Svetlana Grigorievna, mon professeur de chant. Plus tard, sur la base d'enregistrement, j'ai travaillé le son à mon retour à Paris. À Moscou, encore à Moscou, où l'arithmétique du chant. Après avoir attendu la fin de l'hiver en France, après avoir gagné un peu d'argent, après avoir mené 4 mois de vie nomade à Paris et après avoir chanté dans l'une des églises orthodoxes russes de la capitale française, remise du choc du visa et renforcée moralement, de nouveau, je partis pour Moscou. C'était début avril. Je prends beaucoup de plaisir à travailler le son. Un plaisir énorme, vraiment. Je partageais mes impressions sonores avec Svetlana Grigorievna.
La joie, l'intrain et l'enthousiasme émotionnel et spirituel qui accompagnent le travail sur le son montrent bien que vous êtes sur le bon chemin.
Confirmé, mon professeur de chant. Utiliser son corps comme instrument de musique, sans y toucher, presque. Chanter par un flot d'air caressant les cordes vocales, mais pas vraiment sur les cordes vocales. Plus votre son est bas, plus vous pensez à la voix de tête. Plus votre son est haut, plus vous appuyez sur le bas. L'arithmétique du chant est riche de paradoxes. Pour moi, le chant est une sorte d'hygiène de l'esprit et du corps. Et cela importe peu que vous chantiez à la Scala, dans un centre culturel ou bien à l'église. L'important, c'est que le cœur ait envie de chanter et d'apporter de la joie, de la lumière, de la bonté au monde. En plus des leçons de chant deux fois par semaine, je prenais également des cours privés de chant znamenny. Mon professeur s'appelait Serefima. Avec elle, nous travaillons au Bichod, qui est un recueil de chants liturgiques. Sur ces exemples concrets, j'apprenais la base du chant znamenny. La Vierge Marie et la joie, douce lumière, Alléluia. Le mois d'avril a passé très vite. En mai, je tenais encore bon. Au cours du mois de juin, très long, j'attendis impatiemment de rentrer à Paris. Il me manquait la simple politesse dans les magasins, dans les transports en commun, dans les rues de Moscou. Il me manquait également la bonne et simple nourriture de qualité. Quelques semaines avant mon départ de Moscou, je me suis permis une petite folie dans une épicerie fine sur la rue de Bolchaïa Tverskaya. Au retour dans mon petit appartement moscovite, j'ai choyé mon estomac avec du jambon italien, du fromage espagnol et du vin français. Et mon âme avec la chaîne de télévision russe Kultura.
Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю.
Hurler avec les loups. Здравствуйте. À mon bonjour joyeux, un lourd silence comme réponse. Seulement de temps en temps, j'avais droit à un petit bonjour. Aller dans des magasins moscovites était une véritable épreuve pour moi.
Vous trouvez grossière ma manière de parler? Vous n'avez pas encore entendu à quel point je peux être brutale. Vous avez encore de la chance. C'est fou ce que vous êtes nombreux, vous, les touristes et les gastarbeiters, à arriver à Moscou.
Une jeune fille, presque adolescente, au visage laid, émergeait du guichet de l'un des nombreux changeurs de Moscou. Comprenant que tout en parlant le russe, nous parlions des langues différentes, après avoir pris des roubles en échange de 20 euros, je descendis l'escalier raide de ce petit établissement de change. J'aurais pu dégringoler. Quelle chance, après tout, le rire et le péché, comme on dit en russe. Mais le plus douloureux pour moi, car ça allait contre ma nature, était le fait que je devais parler de la même manière, au moins essayer. Sinon, on ne me prenait pas au sérieux et on ne m'entendait pas. Si je mettais quelques notes d'acier et d'agression dans ma voix, je voyais comme par enchantement surgir la caissière avec une exclamation pour elle presque habituelle.
Il fallait me le dire dès le début, enfin.
En direction de Paris, quelques images de Moscou avant le départ. Moralement comme physiquement, j'étais à bout de force. Mais j'allais quand même à la leçon de chant chez Svetlana Grigorievna, avant qu'elle ne parte en vacances à Chypre. À la sortie du métro dans l'un des quartiers lointains où habitait Svetlana Grigorievna, j'ai observé le court-métrage suivant. Pour commencer, j'ai remarqué un minibus rempli de représentants de la police locale. Quelques minutes plus tard, j'ai vu un jeune policier âgé de 18-19 ans. Ça et là, son visage juvénile était couvert de boutons. Sur son corps était pendue une kalachnikov. On sentait que le fardeau était bien lourd pour lui. Mais il essayait de tenir bon pour faire sortir de l'un des nombreux chantiers de Moscou une jeune femme aux traits asiatiques. La tête baissée, elle portait des sacs en plastique bourrés de choses de toutes sortes. Je me demandais si la jeune femme était en règle par rapport à Registratse, l'enregistrement obligatoire auprès de la police locale pour les étrangers vivant à Moscou. Vécu dans le métro moscovite quelques semaines avant mon départ pour Paris. Je m'intéressais en général peu aux visages rencontrés dans le métro. Aller à l'essentiel de ce visage gris, souvent absent, cimenté, aurait été comme creuser la glace éternelle dans la toundra, avec des mains raides et frigorifiées. De ce fait, malgré le bruit terrible qui régnait dans le métro, moi aussi, je partais vers un autre monde. Je lisais Meister Eckhart, Nikolai Berdeyev, je feuilletais des manuels de chant Znamen, de quoi éveiller la perplexité des moscovites effrayés. Un vieil homme est monté à la station Oktyabrskaya. Il avait dans les 80 ans. Il portait des bottes en cuir. On peut voir ce genre de bottes chez des hommes en provenance d'Asie centrale. Il portait également tubitieika, un chapeau typiquement ouzbek, noir et blanc. Il était accompagné d'un homme d'une cinquantaine d'années. On aurait dit son fils. Comme le bouchon d'une bouteille de champagne le 31 décembre, j'étais prête à lui céder ma place. Or, intuitivement, je sentais ne pas avoir droit de changer le scénario déjà préécrit. Par miracle, j'ai pu retenir mon corps à sa place.
« Asseyez-vous »,
dit doucement une petite vieille femme aux traits russes, en cédant sa place au vieillard en tubitieika ouzbek. Tous les deux, ils avaient à peu près le même âge.
« Ne vous inquiétez pas, je descends à la prochaine. »
Par un signe de tête, j'ai proposé à la babouchka de prendre ma place. Toujours doucement, elle a décliné ma proposition en montrant la sortie.
« Ne vous inquiétez pas, je descends à la prochaine. »
« Même dans une mégapole comme Moscou, où les situations absurdes sont fréquentes, je découvrais qu'il restait malgré tout un peu d'humanité. Même si un fossé pouvait parfois exister entre les moscovites et les ressortissants de l'Asie centrale et du Caucase.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому чего у него
la place rouge au lac Baïkal.
Умному дай голову, трусливому дай коня.
À chaque fois où je me retrouve sur la place rouge, j'éprouve des émotions très fortes. À la fois, j'admire la Russie qui reste pour moi un pays unique au monde. En même temps, je ressens la douleur des gens dans toute la Russie, mais aussi leur fierté, leur foi, malgré tout.
Moscou, ce n'est pas encore la Russie. Si tu peux aller au lac Baïkal, te rendre au Kamtchatka, la vraie beauté, c'est là-bas. Et les gens, ils sont tellement touchants.
Comme un écho à mes pensées, parlait un ami moscovite. À Baïkal. En essayant de paraphraser Tchekhov, je m'imaginais déjà à bord du Transsibérien, à la musique du train. 9288 kilomètres.
Je sais que tu sais tout. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем мы. Мы сами, не ведая, что творим.
À Moscou, de Moscou, le carnet de voyage musical. Une émission d'Elvira Karimova Fortunato. Avec les voix d'Olga Kokorina et Vladimir Antsifirov. Prise de son Pierre Cantard, Jean-Michel Coqui, Claire Levasseur, Thibaut Germez. Mixage Jason Taous, documentation INA Marie Jaros, documentation musicale Antoine Viloz. Chant Znamenny Elvira Karimova Fortunato. Réalisation Nathalie Sall. Attachée d'émission Inès De Bruyne, Alice Ramon. Coordination Irène Omelianenko.